Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du jour, dans ce Vivante Église. C'est un deuxième volet, une suite sur le prophète Ézéchiel. Pour intervenant, je reçois Frère Baptiste Sauvage. Bonjour Frère Baptiste.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans ce deuxième volet, une continuité. Nous poursuivrons non pas l'étude du prophète Ézéchiel, mais peut-être la découverte voilà. Et donner, et c'est un peu le défi de ce Vivante Église depuis la semaine dernière, donner le goût de découvrir, de se replonger dans l'Ancien Testament, peut-être la lecture de tous les prophètes de l'Ancien Testament, et pourquoi pas de celui-ci, le prophète Ézéchiel, puisque vous avez consacré aussi un livre, et c'est une étude, une lectio divina, le char des chérubins, paru aux éditions Pierre Tetki. Alors l'objectif aujourd'hui de ce Vivante Église, avec ce prophète, non pas prophète de malheur, si on devait définir et dire une définition de ce prophète Ézéchiel,
je dirais,
sa particularité, son originalité.
C'est le prophète de l'espérance, c'est-à-dire l'espérance du ciel et de la reconstruction. La reconstruction de le livre se termine par la reconstruction du temple, donc c'est-à-dire la reconstruction de ce qui a été perdu. Ouais.
Un prophète peut-être d'espérance pour aujourd'hui.
Exactement.
Ouais, oui, c'est bien le rendez-vous aujourd'hui de ce prophète Ézéchiel. Alors il a eu comme beaucoup de prophètes, frère Baptiste, des visions. Si vous voulez bien, je vais vous inviter peut-être à lire un court extrait de cette grande vision, puisque c'est même l'objet aussi de votre étude et de votre livre, cette vision, le char des chérubins, cette vision du char de feu.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Oui,
très
bien. Alors, je commence par, je vais dire quelques versets du premier chapitre, les premiers puis les derniers, pour être succinct. Mais il faudrait tous les lire, évidemment, et les méditer. La 30e année, au 4e mois, le 5 du mois, alors que je me trouvais près parmi les déportés au bord du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrit et je fus témoin des visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année d'exil du roi Joachim. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Ézéchiel, fils de Bouzi, au pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Je regardais, c'était un vent de tempête soufflant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant, avec une lueur autour et au centre comme l'éclat du vermeil au milieu du feu. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants, dont voici l'aspect. Ils avaient une forme humaine, ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots étaient comme des sabots de bœufs, étincelants comme éclats de l'airain poli. Je saute un peu.
Oui, oui.
Et puis on en arrive à la fin, où justement, on est au-dessus du firmament. Donc on a vu la description des vivants, des roues, et le regard d'Ézéchiel s'élève au-dessus du firmament. Sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant apparence humaine. Et je vis comme l'éclat du vermeil, quelque chose comme du feu près de lui tout autour, depuis ce qui paraissait être ses reins au-dessus, et depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessous, je vis quelque chose comme du feu et une lueur tout autour. L'aspect de cette lueur tout autour était comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages les jours de pluie. C'était quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Je regardais, je tombais la face contre terre. Et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait.
Alors merci, et puis bien sûr les auditeurs, nous vous invitons avec frère Baptiste Sauvage à plonger,
bien sûr,
replonger vraiment dans ce prophète Ézéchiel et à relire, méditer pour se laisser nourrir. Alors ça c'est une grande vision de ce prophète qui caractérise bien aussi le prophète Ézéchiel. Alors comment faire l'analyse, le descriptif et comprendre un peu tous les codes, tous les messages à travers cette vision précise de ce chariot divin qui est porté par 4 roues.
Oui, alors
frère
déjà,
Baptiste.
Peut-être il y aurait plusieurs choses à dire. La première, c'est que effectivement, il s'agit d'un texte difficile. Je ne sais pas si tous les auditeurs ont compris tout ce que j'ai dit.
Vous allez le reprendre et donner
peut-être
une
même,
explication.
Oui, c'est ça, but, qu'il y aurait besoin hein, oui. de... Non, et même malgré toutes les explications, ce texte en soi restera...
Mystérieux
et résiste à l'intelligence. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas décourager notre lecture des textes bibliques. C'est-à-dire que quand il est difficile et obscur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous ne digérons pas la parole de Dieu, nous ne la réduisons pas à notre compréhension humaine. C'est toujours elle qui nous élargit et qui vient creuser en nous le désir de comprendre. Donc ça, je pense que c'est vraiment un préambule qui est très important, parce que avec ce texte, on est comme poussé dans nos limites. Mais ce qui est vrai de ce texte est vrai aussi de toutes les Écritures.
Mais
je
vous avez fait une étude. Hein,
voilà.
Vous êtes lancé ce défi. Hein.
Exactement. Oui, c'est ça.
Oui. Défi aussi à votre intelligence.
C'est ça, bien sûr. Oui. Et ça ne doit pas non plus être évidemment une sorte de démission de l'intelligence. Au contraire, elle est stimulée.
Alors vous avez été vous-même stimulé, donc
oui.
Donnez-nous un peu, je dirais,
voilà.
Les lumières. Est-ce qu'on peut parler de lumières, puisque vous avez
oui.
étudié et travaillé?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Quelles sont les lumières de ce texte et de cette vision, très
oui.
précisément,
alors, je
qui
dirais...
semble un peu difficile et inaccessible?
Voilà, oui. C'est ça. Alors ça commence, déjà il y a une sorte de développement, c'est-à-dire qu'on commence par un orage, donc on est plutôt craintif, hein, avec un feu, un orage qui, à partir du verset 13, commence à devenir de plus en plus violent, puisqu'on devine des éclairs au verset 14 qui en sortent. Et comme on l'a vu ou entendu à la fin de la vision, l'orage s'apaise et on en arrive à un arc-en-ciel avec de la pluie. Donc il y a comme un chemin qui est proposé, qui passe de l'orage à l'arc-en-ciel. Donc, sous forme symbolique, on a aussi, on pourrait dire, l'annonce de ce que Ézéchiel vit, c'est-à-dire qu'il passe de la détresse à l'espoir, après la pluie, le beau temps, pour le dire avec des proverbes.
C'est pas moi, c'est vous.
mais qui sont pas faux. Et donc, il y a une progressivité, en tout cas. C'est un constat très simple à poser. Et en même temps qu'il y a, on pourrait dire, du point de vue des manifestations cosmiques, une sorte d'apaisement qui se vit du côté d'Ézéchiel, il y a aussi une élévation du regard, puisque on part de la terre. Et puis, le regard d'Ézéchiel va se poser d'abord sur des êtres mystérieux, des vivants, avec quatre faces, ce qui donnera plus tard la compréhension d'une annonce prophétique des évangiles, hein, cette ouais. fameuse face d'homme, de taureau, de lion, d'aigle, des vivants qui se tiennent par leurs ailes, qui avancent dans les quatre directions de l'espace, qui sont animés par l'esprit. Donc on reviendra un petit peu dessus, auxquels s'associent des roues. Donc là aussi, c'est très difficile à se représenter. Et le regard d'Ézéchiel va se poser sur ces êtres mystérieux, être pris dans leur mouvement et peu à peu entrer dans leur élévation aussi, puisqu'il est dit que ce complexe, ce char, va s'élever vers le ciel jusqu'au firmament. Et donc, au-dessus de la tête de ces chérubins, on saura plus tard qu'il s'agit de chérubins, il y a ce firmament. Et le firmament qui crée comme une sorte de limite entre un dessus et un dessous, donc une sorte de frontière à traverser. Et c'est ce qu'Ézéchiel va faire par le regard, et il découvrira au-dessus de ce firmament ce trône sur lequel siège une apparence humaine, hein, qui n'est autre que la gloire du Seigneur. Voilà. Donc il y a aussi une progressivité dans, on pourrait dire, l'accueil de la révélation de la gloire. Ézéchiel passe par la contemplation d'êtres mystérieux, célestes, qui le préparent à contempler Dieu lui-même.
Et on rejoint cette vision que vous aviez évoquée la semaine dernière dans ce Vivant Église qui était le premier consacré au prophète Ézéchiel, où vous redonnez un peu, je dirais, cette vision aussi de la Madre, de
exactement,
Thérèse d'Avila.
Exactement. Où chez elle aussi, on sent bien qu'il y a cette progressivité, c'est-à-dire que elle est introduite dans la contemplation de la divinité.
Dieu est pédagogue.
Exactement.
Hein, oui.
Exactement. Il nous prend par la main, il nous fait passer par des médiateurs. Alors pour Thérèse, la grande médiation, l'unique médiation, ce sera celle de l'humanité de Jésus. Et cette humanité se découvre en filigrane à travers les apparences humaines de ce que voit Ézéchiel. Donc on sent que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, commence à se manifester à travers un visage humain. Donc il passe par l'image de l'homme pour révéler sa gloire. Et évidemment, c'est ce que vivra Thérèse d'Avila aussi d'une manière très forte. Hein. Dieu ne se communique d'une manière authentique que par la médiation de l'humanité du Christ.
Alors, une telle vision de ce char, de cette vision du prophète Ézéchiel, que dit une telle vision pour notre monde d'aujourd'hui et notre époque d'aujourd'hui, frère Baptiste?
Eh bien,
comment l'interpréter?
Oui, voilà. C'est ça. Je dirais volontiers, en reprenant ce qu'on disait la semaine dernière, que dans cette vision qui va lui être donnée, Ézéchiel va retrouver le fondement de tout ce qu'il croyait avoir perdu. Et on voit qu'effectivement, Ézéchiel est exilé loin de sa terre, loin du temple, et il y a beaucoup d'allusions au temple de Jérusalem dans cette vision, oui, mais qui désormais va être manifestée dans le ciel même. Vous voyez, donc, et pour nous, on peut faire le lien, c'est-à-dire que ce que nous avons perdu ou ce que nous croyons avoir perdu sur terre existe toujours auprès de Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, parce que c'est plutôt inattendu, on peut le supposer pour Ézéchiel, cela nous sera rendu en plus beau et peut-être en plus pur. Par exemple, hein, Ézéchiel va voir ces êtres qui se tiennent par leurs ailes. Et pour ceux qui sont amis des Écritures, se souviennent que dans le temple de Jérusalem, il y a un espace qui est l'espace sacré par excellence, le Saint des Saints, où se trouve l'Arche d'Alliance, qui est comme recouverte par les ailes des chérubins. Et voilà, justement, on pourrait dire le lieu qui était le centre de la vie du peuple, centre auquel le peuple n'a plus accès en raison de l'exil à Babylone. Et justement, voilà ce qui va être rendu à Ézéchiel, qui comme prêtre, justement, va redécouvrir cela dans le ciel. C'est-à-dire que ces chérubins, peut-être que tu croyais qu'ils étaient limités à ce que tu connaissais, c'est-à-dire ton expérience du temple de Jérusalem, eh bien moi qui suis Dieu, je te dis qu'ils subsistent auprès de moi et que tu peux en faire l'expérience même exilé, même loin de chez toi, puisque je te donne de les voir auprès de moi et même d'une manière encore plus grande et mystérieuse que ce que tu connaissais.
Donc, on peut entendre que Dieu donne une grande consolation au prophète Ézéchiel.
Exactement, exactement.
Le prophète a besoin d'être consolé.
Il a besoin, oui, pour pouvoir consoler le peuple aussi. Hein. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il sort de cette expérience avec, on pourrait dire, une autorité qui lui vient de ce qu'il a contemplé et de la manière dont il a été transformé par ce qu'il a contemplé. Il y aurait beaucoup de choses à dire hein, aussi. Autre élément qu'on pourrait retenir, c'est que effectivement, on voit qu'Ézéchiel, et on parlait de ce firmament qui forme une sorte de limites ou de frontières qui séparent le monde de Dieu du monde qui est sous la limite, donc le monde du ciel en dessous du firmament. Et Ézéchiel reçoit par grâce, on pourrait dire, la capacité de traverser cette limite pour entrer dans un espace divin. Expérience d'ailleurs qui en fait est la nôtre quand par la grâce de Dieu on est introduit dans le centre de notre âme, hein, dans notre saint des saints intérieur, on peut vivre quelque chose de cela. Et en tout cas, c'est ce qu'Ézéchiel vit en exil. Il traverse cette limite, cette frontière, pour se mettre ou pour être introduit en présence de la gloire de Dieu. Et voilà ce que faisait le grand prêtre une fois par an, pendant le rite du Yom Kippour, où justement il entrait dans le Saint des Saints afin de pouvoir intercéder pour le peuple. Donc là aussi, une expérience culturelle qui constituait le centre de la vie d'Israël, qui désormais est impossible, va être donné à Ézéchiel de vivre, mais en étant introduit dans le ciel, dans le Saint des Saints du ciel, si vous voulez. Et là aussi, vous avez quelque chose de cette loi que l'on évoquait, c'est-à-dire que ce qui semble perdu à vue humaine est souvent rendu d'un point de vue divin.
Ça peut parler aussi à notre peuple d'aujourd'hui, notre temps, notre époque,
exactement,
qui est une époque de crise, de confusion,
oui,
de troubles,
oui.
Où ne règne pas toujours la paix. Mais
c'est ça, on a l'impression de perdre nos repères, ou alors dans un contexte...
Ou de ne pas gagner sur toutes les lois, mais d'avoir des lois qui ne correspondent pas aux lois de Dieu.
Oui, c'est ça.
Et à ses commandements.
Et ce qui justement faisait notre héritage spirituel, culturel, et qui semble justement être piétiné.
Ou disparaître.
Disparaître. Ouais. Là aussi, je crois qu'Ézéchiel nous invite à le retrouver, mais dans son fondement, qui est en Dieu, et justement à nous appuyer sur ce fondement céleste pour même penser à une reconstruction. C'est-à-dire que la main du Seigneur n'est pas trop courte, pour employer une expression biblique, pour faire justement pour opérer de nouvelles merveilles. Et ce qui disparaît aux yeux des hommes, peut réapparaître par l'action de l'Esprit créateur.
Alors là, je pense que vous écoutons aussi à ce grand mystère qui, puisque vous aimez les mystères autour de ce prophète Ézéchiel, il y a aussi ce grand mystère de cette mort du Christ.
Oui. Hein. Échec voilà. Apparent.
Échec apparent et de cette extraordinaire résurrection.
Oui, tout à fait. Qui d'ailleurs est anticipée dans...
Cette fameuse reconstruction du temple en 3 jours.
Reconstruction du temple ou dans la vision, moi je pensais à la vision d'Ézéchiel, les ossements desséchés.
Tout à fait,
qui,
c'est pour un peu plus tard. Hein,
on
la
en parlera bien
de
sûr,
ce
tout, à
église.
Fait, tout à fait.
Je vous propose de vous retrouver dans ce Vivante Église pour retrouver aussi cette deuxième vision. On ne peut pas tout dire, malheureusement,
évidemment.
Frère Baptiste, mais on peut inviter les auditeurs à donner le goût de se plonger, de relire, de méditer ce prophète Ézéchiel. Et puis tous les prophètes de l'Ancien Testament, pourquoi pas relire tout l'Ancien Testament et continuer jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à l'Apocalypse. Voilà, lecture complète de la Bible. Et je vous propose de vous retrouver après cette plage musicale. À tout de suite.
Yeah.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église consacré à la figure d'un prophète, et comme tous les prophètes, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Et c'est le prophète Ézéchiel. Je reçois au micro, et vous l'avez entendu, un spécialiste, Baptiste Sauvage, auteur de ce livre qui est une Lectio Divina, un travail approfondi d'études, paru aux éditions du Cerf, Le Char des Chérubins. Frère Baptiste, vous êtes resté dans ces studios. Il y a une vision, et c'est la vision numéro 2, très bien, qui est connue pour les biblistes ou pour de simples lecteurs, cette vision des ossements déchaissés chez Ézéchiel, qui est transportée dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Alors que nous dit et comment interpréter cette vision d'Ézéchiel, frère Baptiste ?
Eh bien, je vous propose de la lire.
C'est un bon début. On vous écoute. Hein. On écoute la parole.
La main du Seigneur fut sur moi. Chapitre 37, pardon. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'Esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ? Je dis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ces ossements, voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, je vous donnerai un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Or il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, viens des quatre vents. Esprit souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais, il m'en avait donné l'ordre et l'esprit vint en eux. Il reprit vie, ils se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais, oracle du Seigneur.
Grande vision, merci pour cette lecture, voilà qui nous invite à méditer cette grande vision d'Ézéchiel.
Oui, tout à fait.
C'est pas rien, c'est de la mort à la vie, au fond. Hein, c'est de la désolation à toute l'espérance en vue de...
D'une résurrection. C'est-à-dire, effectivement, dans un premier temps, il est question d'Israël qui a perdu l'espoir de persister comme peuple, de retourner sur sa terre, de reconstruire le temple. Donc, on pourrait dire qu'Israël se vit comme mort et donc comme ossement desséché. Et justement, par cette vision, Ézéchiel est amené à faire comprendre au peuple que non, une résurrection lui est promise. Et que le Seigneur n'a pas oublié ses promesses, et donc il va vivre d'une nouvelle vie s'il consent à recevoir cet esprit.
S'il consent.
Exactement.
Il faut cette participation, collaboration.
Tout à fait.
Donc il faut tendre l'oreille, écouter.
C'est ça, et ce qui est très frappant, c'est qu'Ézéchiel, après la première vision dont on a parlé en début d'émission, va être envoyé vers un peuple à la nuque raide, et donc un peuple qui ne veut pas écouter. C'est frappant parce que...
Au fond, qui ne veut pas obéir.
Qui ne veut pas obéir, et ce qu'Ézéchiel découvre avec son peuple, c'est que la résistance n'était pas seulement à l'extérieur. Ça, on pourrait dire que c'était plutôt Moïse avec Pharaon. Hein. Ouais. On voit bien que c'était Pharaon qui opposait une dureté de cœur à l'appel du Seigneur de laisser partir son peuple d'Égypte. Mais désormais, ça va être Israël qui comprendra que cette résistance habite son cœur à lui. Et que la dureté de cœur, eh bien, le Seigneur l'expérimente avec son propre peuple. Et donc là aussi, je crois que...
Dieu résiste aux orgueilleux.
Oui, c'est ça. Mmh. Et ceux qui se penseraient, on pourrait dire, sur les premières places du podium, ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus proches de Dieu. Et ça, c'est ce qu'Ézéchiel va expérimenter lorsque, au nom du Seigneur, il viendra parler au chef de Juda, exilé avec lui, et qu'il expérimentera cette résistance du peuple.
Que nous dit cette vision du prophète pour aujourd'hui, très
bien
précisément
sûr.
Le peuple d'aujourd'hui est en résistance aussi, est en opposition avec Dieu, frère Baptiste.
Alors, ce que je dirais, c'est que déjà, en fait, cette vision, elle, en quelque sorte, elle popularise l'expérience d'Ézéchiel. C'est-à-dire que ce que lui a fait en premier, on pourrait dire dans l'intimité, il était au bord d'un fleuve, donc il y avait, on peut supposer que c'était un endroit plutôt désertique où il n'y avait pas de témoins, en tout cas ils ne sont pas décrits dans le livre. Et donc ce qu'Ézéchiel a vécu, qui est proprement une résurrection, parce que après cette vision initiale, il reçoit l'Esprit, le Seigneur lui demande de se mettre debout, donc ce sont des mots qui disent hein, le fait de se lever, donc de ressusciter. Et donc cette expérience de l'Esprit reçue, eh bien Ézéchiel va inviter le peuple à la vivre avec lui. Et c'est pour ça hein, que le Seigneur l'invite à prophétiser sur ses ossements en demandant à l'Esprit de venir en eux pour qu'ils vivent, c'est-à-dire il se sert d'Ézéchiel pour en faire le témoin de cet Esprit que le Seigneur souhaite communiquer. Alors, à tous ceux qui se pensent comme morts.
C'est une autorité de Dieu.
Oui, c'est ça.
Avec
c'est...
une obéissance de son prophète.
Oui,
et une autorité du prophète qui obéit à Dieu.
C'est ça, et je dirais même, peut-être plus simplement, même qu'autorité, c'est une expérience qui se communique. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, de très presque naturel. C'est-à-dire que celui qui a expérimenté ce ciel ouvert et donc cet esprit que Dieu souhaite communiquer ne pourra pas faire autre chose que d'être l'instrument, s'il le veut bien aussi, hein, il n'est jamais forcé.
Comme Marie, mais... au jour de l'Annonciation, elle
exactement.
A dit oui, et tout comme tout le prophète et prophète de l'Ancien Testament, ils ont dit oui.
Et exactement, hein? oui, tout à fait. Et donc, dans cette vision des ossements desséchés, c'est ça, cette première résurrection qu'Ézéchiel a vécue lui-même, en quelque sorte, eh bien, l'ensemble du peuple va être appelé à la vivre aussi, à recevoir
donc,
cet esprit.
Donc, Ézéchiel lui-même a été témoin de ce grand miracle de Dieu.
Pour lui-même et pour les autres, oui, tout à fait.
Et il fallait pour lui-même ce miracle.
Je pense, parce que comment pourrait-il témoigner pour les autres de ce qu'il n'a pas expérimenté? Et donc, ça aussi, c'est d'ailleurs frappant dans ce livre, c'est que Ézéchiel va être amené à poser des gestes étonnants, comme par exemple dormir tel nombre de jours sur le côté droit et sur le côté gauche comme signe justement d'un péché qui s'est accumulé sur le peuple pendant tel nombre d'années et qu'Ézéchiel doit porter déjà un petit peu comme l'agneau de Dieu qui portera plus tard le péché du monde. Donc il pose des gestes qui sont étonnants, il mime le siège de Jérusalem avec une poêle et des cheveux. Donc ce sont des choses très étranges.
Qui semblent un peu, permettez-moi, mais absurdes.
Qui semblent farfelues.
Oui, ouais, oui,
complètement. Exactement.
On ne le suit pas forcément.
On
ne
le suit pas.
Et on ne le comprend pas.
Et on ne le comprend pas. Ouais. Et le peuple ne le comprend pas sur le moment. Et je pense que pour qu'il puisse entrer dans cette... mettons entre guillemets, cette folie de Dieu, il devait lui-même être suffisamment proche de lui pour consentir à aller jusque-là dans l'obéissance. Sa femme meurt et le Seigneur lui demande de ne pas porter le deuil, en condamnation justement de ceux qui ne s'affligent pas sur le sort de Jérusalem, qui va bientôt être détruite dans la deuxième invasion de Nabucodonosor. Donc, il pose des gestes qui sont intrigants, et je pense qu'il ne pourrait pas poser s'il n'était pas suffisamment affermi. D'ailleurs, c'est le sens de son nom,
ça,
hein. Ézéchiel, c'est celui que Dieu fortifie. Et donc, s'il n'était pas affermi dans cette expérience du ciel ouvert et de l'esprit reçu. Et donc pour que...
Ézéchiel, au fond, vous décrivez un contemplatif ?
Oui, exactement. Il a cette... Et on pourrait dire un contemplatif qui n'est pas attentif au « qu'en dira-t-on ?» mais qui est obéissant à la parole de Dieu. D'ailleurs...
Libre.
Assez libre. C'est ce que d'ailleurs Thérèse d'Avila dira des contemplatifs en prenant l'exemple de Marie-Madeleine qui n'a pas peur d'aller verser son parfum sur les pieds de Jésus alors que tout le monde dans le banquet se moque d'elle hein, ou lui fait le reproche à Jésus d'accueillir une femme de mauvaise vie. Et Thérèse dit que justement, les contemplatifs sont parfois capables de poser des actes qui paraissent fous aux yeux du monde, mais qui en réalité sont animés par un grand amour qu'ils ont d'abord reçu et expérimenté.
Vous parlez de cette figure féminine de Marie-Madeleine,
oui.
Libre,
exactement.
Mais aimante.
Exactement. Et il y a quelque chose de...
Elle s'est laissée traverser, posséder.
C'est ça.
Comme
c'est
un prophète. Hein.
Comme un prophète.
On ne perd pas de vue le prophète. Et il
bien
reste
sûr que non.
Encore quelques minutes pour parler de ce prophète Ézéchiel.
Oui, tout à fait. Et même, si d'ailleurs on voulait filer la métaphore des figures féminines, Ézéchiel est aussi ce grand témoin du désir sponsal de Dieu pour son peuple,
ouais.
Hein, puisque c'est avec lui que, au chapitre 16, on aura cette magnifique vision, alors qui se terminera mal, puisque l'épouse appelée par son Seigneur va se détourner de lui. Hein. Mais c'est quand même une vision dans laquelle le Seigneur se penche vers une fille et lui donne la vie. Je passais près de toi et je te vis te débattre dans ton sang et je te dis vis. Et je te fis croître comme l'herbe des champs, tu te développas, tu grandis, tu parvins à l'âge nubile. Je passais près de toi, c'était les temps de mes amours, j'étendis sur toi le pan de mon manteau. Donc ça, ce sont des paroles que le Seigneur dit à son peuple, où il se présente comme l'époux rempli d'amour pour chacun des membres de son peuple. Donc ce sont des paroles très fortes dans lesquelles on reconnaît les accents du Cantique des Cantiques. C'est de ça aussi dont témoigne Ézéchiel.
Alors en somme, cette vision et ce texte que vous avez lu tout au début, dans cette deuxième partie de Vivante Église, est un rappel, avec ses ossements desséchés, est un rappel puissant de cette capacité de Dieu à restaurer
oui.
Le monde, au fond,
exactement.
Les corps, et ça montre la toute-puissance, la grandeur
exactement.
Du Créateur qui est capable de tout.
Oui, et d'ailleurs c'est pas pour rien que cette vision a servi, évidemment, dans la tradition de l'Église, à penser la résurrection finale, puisque il est bien question de résurrection, et ce sera cette œuvre ultime de sa puissance qui se réalisera à la fin des temps, lorsque le monde sera renouvelé et glorifié. Donc ça, c'est, on pourrait dire, l'eschatologie, c'est-à-dire la vision des fins dernières, mais ultimes. Mais on pourrait dire qu'avant cet accomplissement final, il y a beaucoup de petites résurrections, ou petites, en fait, elles ne sont jamais petites, ce sont toujours des miracles, mais des résurrections que le Seigneur prépare aussi bien dans nos vies personnelles que dans la vie des sociétés. Et donc, on pourrait dire que les destructions, les ruines, ne sont jamais suffisamment profondes pour empêcher Dieu de tout reconstruire. Et ça, c'est une sorte de leitmotiv rappelé sous différentes formes hein, dans le livre d'Ézéchiel, d'un Dieu qui veut que le pécheur vive, que le temple soit reconstruit, et que justement cette épouse qui a été infidèle soit restaurée dans sa relation avec lui comme époux de son peuple Israël. Donc rien ne peut empêcher le Seigneur de tout reconstruire, et c'est évidemment avec ce prophète aussi que nous entendons cette merveilleuse parole, hein. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, etc. Donc il est vraiment, le prophète, je crois, de...
Que vous a-t-il apporté dans le travail et l'étude, à travers aussi ce livre qui est paru il y a quelques mois, après un très très travail, qu'avez-vous reçu, et peut-être pour vous-même, dans votre vie de carme et votre vie de prêtre, car vous êtes carme, frère Baptiste Sauvage, et au sein même du Carmel, vous êtes prêtre, hein, donc tout comme le prophète Ézéchiel qui était prêtre hein, dans temple
vrai.
De Jérusalem, vous êtes vous-même... prêtre au sein de l'ordre carmélitain. Qu'est-ce qui vous a peut-être lié, le prophète Ézéchiel et vous-même?
Là encore, c'est pas pour botter en touche, mais c'est quand même parce que il faut toujours le rappeler. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment une part de mystère qui nous échappe complètement. Après, ce que je dirais, c'est que justement le fait de se confronter à à ce personnage, à ce texte-là.
Particulièrement difficile.
Particulièrement, hein. Il y a quelque chose, effectivement, d'un reformatage, je pense. Une reprogrammation.
Ordinateur qu'on reprogramme.
Il y a quelque chose de cet ordre.
Ça a bugué, il faut repartir à zéro.
Oui, et en fait, je pense qu'il... Si on consent à... et ça ne veut pas dire qu'il faut faire une étude scientifique pour vivre ça, évidemment. Mais si on consent à le lire, à se laisser déplacer par ce prophète étrange, je crois qu'en fait, on donne à Dieu la capacité, à travers ce texte que l'on médite, de façonner notre cœur et notre esprit pour le rendre plus conforme au sien. Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre, hein. Ben voilà peut-être ce qui se passe quand on se laisse labourer par ce texte-là. Il travaille les profondeurs de l'âme, les profondeurs du cœur, et on pourrait dire que beaucoup de dimensions de notre personnalité sont reprogrammées selon le programme de Dieu.
C'est
une mauvaise image. Hein.
Le temple de Jérusalem a été détruit.
Exactement.
C'est peut-être le temple qui vous habite, mais vous-même qui êtes passé par une destruction apparente et pour une reconstruction.
Mais il y a quelque chose de ça. Et c'est vrai qu'on pourrait dire beaucoup de fibres de la personnalité sont saisies avec ces prophètes, hein, parce qu'Ézéchiel, évidemment, n'est pas le seul. Mais vous avez
c'est le propre des prophètes.
C'est le propre des prophètes. Mais c'est vrai que vous avez les fibres affectives du cœur, mais aussi la question de la manière qu'a Dieu de gouverner les nations. Donc vous avez aussi des visions prophétiques sur les nations qui nous entourent. Et donc, qu'est-ce que Dieu pense de l'Égypte? Qu'est-ce que Dieu pense de Babylone? Ben, ça peut aussi nous amener à ouvrir notre esprit sur la manière qu'a Dieu d'envisager aussi les peuples qui nous entourent encore aujourd'hui. Donc toute cette manière d'envisager le monde, mais aussi le pécheur, c'est-à-dire celui que je considérerais comme un pécheur invétéré, est-ce que le Seigneur m'invite pas à devenir guetteur, comme Ézéchiel est appelé pour justement pour lui dire des paroles de vie? Et ça aussi, c'est la mission d'Ézéchiel, d'être un guetteur qui se tient sur la brèche. C'est aussi celui
sur les remparts de Jérusalem.
Exactement. C'est celui qui entend cette parole de Dieu disant, mais personne, je cherchais quelqu'un qui plaide en faveur du peuple et je n'en ai pas trouvé. Donc, est-ce que je vais consentir aussi à être celui qui me tient devant Dieu pour parler de mes frères? Et donc, il y a beaucoup de choses à tirer de ce prophète et je crois qu'effectivement, il nous invite à une transformation ou une adaptation de notre humanité sur tous les plans.
Alors bien, merci de nous avoir donné, je l'espère, c'était le but de ces Vivantes Églises la semaine passée et cette semaine, de faire une immersion dans ce chapitre d'Ézéchiel et pourquoi pas découvrir aussi ce livre, une Lectio Divina aux éditions du Cerf, qui s'intitule Le Char des Chérubins, avec une préface de Philippe Lefebvre, qui est dominicain et qui a fait effectivement une très belle préface de votre livre. Merci infiniment, frère Baptiste Sauvage, de vos deux interventions la semaine passée et aujourd'hui. Et on vous souhaite une belle transformation comme le prophète Ézéchiel.
Ah, il y a encore du travail. Hein.
Comme tous les prophètes et puis tous les baptisés ou futurs baptisés.
Exactement. Pensons à eux aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.